Très reconnaissant d'être avec vous tous ce matin, après deux semaines, deux dimanches d'absence. Ça nous fait plaisir de vous retrouver tous. Et on vous apporte bien sûr les salutations de l'église de Wolo et de toute l'équipe, notamment de celle de du pasteur Benjamin Short. Je vous invite à chercher dans votre Bible le livre de Néhémie. On est arrivé au chapitre 4 dans l'étude de ce livre et on va en faire, pour commencer, eh bien la lecture. Chapitre 4, on va lire des versets. Alors, peut-être selon les versions, le chapitre 3 est plus ou moins long. Le mien, il termine au verset 32 et le chapitre 4 possède 23 versets. Je lis, « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit, « Laissez-les bâtir, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans le chapitre 3, on a vu un peuple... on a vu la beauté même d'un peuple qui autrefois vivait dans la résignation, dans l'opprobre, dans le malheur et qui, d'un coup, maintenant, se lève et rebâtit la muraille, prend part à l'œuvre de Dieu à Jérusalem. On les retrouve tous. Ils sont tous là, les uns à côté des autres, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, de toute profession, de toute condition sociale, de toute la région aux alentours de Jérusalem, travaillant les uns à côté des autres avec zèle et d'un même cœur. Mais ça pouvait pas durer. Ça pouvait pas durer. Comment pouvez-vous imaginer vous lever pour servir et glorifier Dieu et ne pas connaître l'opposition de l'ennemi? C'est un principe de la vie chrétienne. Lorsque les chrétiens se lèvent pour servir et glorifier Dieu, le diable aussi se lève pour s'opposer. Quand on a préparé ce voyage, notre sœur Zoé a été attaquée. On a fracturé sa voiture, on lui a piqué son passeport et tous ses papiers juste avant le départ. À peine avoir, finalement elle est partie avec un nouveau passeport. Après avoir mis le pied en Côte d'Ivoire, juste au deuxième jour, Julie est tombée malade. Elle a vomi tout ce qu'elle a pu pendant toute la nuit. Je vous passe les détails. Et chacun a été éprouvé d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous pensez qu'on peut se lever sans connaître des difficultés, sans connaître l'opposition? Là-bas, on a assisté au premier baptême d'un djoula, le premier djoula converti à Jésus-Christ. Il s'appelle Sekoro, il s'est converti au début de l'année 2018, et puis il a attendu plusieurs mois jusqu'au mois d'octobre pour être baptisé, près de 10 mois. Ça faisait longtemps qu'il voulait être baptisé, et puis il a suivi une préparation, et puis il s'est affermi dans la foi, et puis Benjamin lui a dit, on va faire une grande fête, on va célébrer avec plein d'autres des baptêmes. Il y avait 8 ou 9 baptêmes en même temps. Et puis il y aura l'équipe de France qui va venir... l'équipe Toulouse-Ponto qui va venir et qui va participer à ce baptême. Alors il a attendu, il a patienté pour être baptisé. Mais quelques jours avant notre arrivée, il a eu une crise de palu. Alors eux, ils sont habitués à ça. Et ils savent comment le palu... les terrasses. Et il savait que dans quelques jours, normalement il devait être baptisé, mais dans quelques jours, il serait complètement incapable de se lever même. Alors pendant que Benjamin était en train de nettoyer ou de remplir un peu un dossier dans une maison là où ils élèvent des lapins, il a entendu quelqu'un qui priait, c'était Sekoro. Et Sekoro priait, « Oh Dieu, ne permets pas que je ne sois pas baptisé. Permets que je sois sur mes genoux, sur mes pieds pour ce jour, pour dimanche. » Benjamin est revenu 3 quarts d'heure plus tard. Il faisait la même prière. « Seigneur, ne permets pas que je sois dans mon lit le jour de mon baptême. » Quelques jours après, la crise a été à son maximum. En pleine nuit, il convulsait. Il est tombé à 3 d'hémoglobine. Normalement, on est mort avec ça. Mais lui, il a tenu le coup. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Il a reçu des transfusions. Et finalement, l'hôpital a accepté de le faire sortir de l'hôpital le samedi soir, pour qu'il puisse nous donner son témoignage. On va vous raconter ça un de ces jours. Le lendemain matin, il était baptisé. Je peux vous dire que c'était une victoire merveilleuse, extraordinaire, de voir que Dieu répond à la prière, qu'il nous secourt avec puissance. Il ne faut pas s'étonner que notre engagement suscitera l'irritation de nos ennemis. Mais comme on l'a chanté, la victoire nous appartient. Et ici, dans notre passage, tout le peuple s'est levé. Et du coup, le diable s'est aussi levé. Et il a pris des formes humaines, hein, ici. Et les attaques, c'était le premier type d'attaque, c'était la moquerie. Hein, vous avez vu ça dans les premiers versets, versets 1 à 6. La première forme d'opposition que l'on rencontre ici, et c'est la moquerie. Et c'est pas la première fois qu'ils sont moqués. Déjà au chapitre 2, on a vu au verset 10 et au verset 19 et 20, que alors que Néhémie venait d'arriver à Jérusalem, il était déjà moqué pour ses intentions de construire la muraille. Mais maintenant que les travaux ont commencé, maintenant que les travaux vont bon train, la moquerie s'intensifie. Sanballat stigmatise la faiblesse des bâtisseurs. Il parle de ces juifs impuissants. Aucun homme n'aime bien être traité comme ça. Mais en quoi était-il impuissant? Parce qu'il n'était pas depuis longtemps dans le pays, parce qu'il venait y retourner simplement de l'exil, parce qu'il n'avait pas de roi, pas de chef au milieu d'eux, parce qu'ils étaient peu nombreux pour accomplir une tâche qui était colossale. Ils disent, sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ce que Sanballat insinuait par ces questions, c'est que les Juifs ne pourraient jamais achever la muraille pour ensuite offrir des sacrifices de reconnaissance. Les matériaux même étaient enfouis sous des décombres, sous des tas de poussière. Il dit, mais il faut des belles pierres pour bâtir une muraille comme celle-là. Et eux, ils devaient aller déterrer ces pierres. Quoi qu'il en soit, la Bible dit que la puissance de Dieu s'accomplit justement dans la faiblesse. En s'arrêtant à l'immensité de la tâche, on peut être découragé et se sentir impuissant. Face aux moqueries, on peut être dans le découragement. On pourrait se dire, notre Église est faible. Comment atteindre le monde? Comment atteindre l'agglomération de Toulouse avec l'Évangile face à l'incrédulité ambiante? Comment le faire face à un monde tellement matérialiste, méfiant à l'égard du fait religieux? Comment atteindre ce peuple avec face à des lobbies aussi puissants et athées? Aux moqueries de Sanballat s'ajoute celle de Tobija, qui tourne en dérision leur travail. Si un renard s'élance, il va renverser la muraille. Vous pensez à la muraille de Jérusalem, c'est plusieurs kilomètres de tour, mais c'est plusieurs mètres de haut et plusieurs mètres de large. Les pierres, c'était chaque pierre faisait ça Il les méprise. Que faire lorsqu'on est moqué, lorsque on est méprisé à cause de notre foi, en raison de notre engagement dans l'œuvre de Dieu? D'abord, vous avez remarqué, ils ont gardé le silence. Et ça devrait être aussi notre attitude. Mais juste après, il est dit qu'ils ont prié. Et la prière, versets 4 et 5, c'est une prière d'imprécation. Vous avez remarqué ça? Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et leur péché. On ne trouve pas beaucoup ce genre de prière dans le Nouveau Testament. On les trouve plutôt dans l'Ancien Testament et parfois elles nous surprennent. Certains pensent que dans l'Ancien Testament, le Dieu est vengeur, cruel. Mais considérons un peu cette prière. D'abord, elle nous aide à ressentir un peu de la détresse provoquée par les attaques. Parfois, on pourrait rapidement dire, bon, allez, c'est rien, allez, c'est bon, hein, hop, en avant. Allez dire ça à ce musulman converti, qui chaque fois qu'il part à l'église, on lui brûle son champ. C'est ce qui arrivait au premier chrétien à Wolo. C'est pas grave. Oh non. Vous pouvez pas dire ça. Par ailleurs, cette prière, elle exprime une soif de justice. Et ça, c'est une prière qu'on peut formuler. On a besoin de justice. On aspire à ce que la justice de Dieu s'accomplisse au milieu de nous. Et d'une certaine manière, cette justice, elle n'est pas encore satisfaite. Jusqu'à ce que l'on regarde à Christ crucifié ou à l'enfer, il nous semble que la justice reste bafouée. Néhémie a raison de vouloir que le mal soit jugé. Et s'il prie Dieu ainsi, c'est qu'il sait aussi que Dieu entend nos cris contre l'injustice. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour nous, c'est que Néhémie, il laisse le jugement entre les mains de son Dieu. Vous avez remarqué, il a prié cela, mais il n'a pas dit cela à ses ennemis. Il ne s'est pas fait justice lui-même, mais il réclame que la justice de Dieu s'accomplisse. Au fond, il n'y a rien de mal à être irrité par de mauvais propos et de mauvais agissements. Mais la plupart du temps, nous nous rendons coupables en répondant à des attaques, en nous défendant nous-mêmes avec les mêmes armes, les insultes, les moqueries, au lieu de nous confier en Dieu pour qu'il intervienne lui-même en son temps, comme il jugera bon. Néhémie, il remet son sort entre les mains de Dieu. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire. Il ne menace personne, il ignore Sanballat et il continue son travail. Et pourquoi il fait cela? Parce que son Dieu est souverain et parce que son Dieu est le juste juge. Si nous nous défendons nous-mêmes, nous montrons que Dieu n'est pas notre défenseur. C'est comme si nous nous disions, mais Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Comment réagissez-vous face aux insultes, aux critiques, aux moqueries? À qui faites-vous confiance pour vous défendre? Au Dieu souverain? Au juste juge? Ou à vous-même? Je m'en occupe moi-même. Et je vais défendre ma cause. Si je défends ma cause, je ne défends pas la cause de Dieu. Vous avez remarqué la chose? Quand vous subissez des attaques, des critiques, cherchez à faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu et confiez-vous en lui dans la prière pour ce qui concerne votre défense et poursuivez votre engagement. Quel est l'objectif de l'ennemi? Mais c'est que le travail cesse. Pourquoi il se moque? Pour qu'on cesse de s'engager et de vivre pieusement pour le Seigneur. Se défendre soi-même, c'est cesser le travail et c'est commencer à écouter, à répondre et à se détourner de notre engagement. Le verset 6 dit que le travail avance jusqu'à la moitié. Et notez encore la fin du verset 6, il est dit « Et le peuple prit à cœur ce travail ». Ah, c'est merveilleux quand on arrive à surmonter les attaques comme cela, en restant centré sur Dieu, sur son œuvre, eh bien, le cœur de tout le monde est encouragé à poursuivre le travail. Mais quand les moqueries ne suffisent pas, quand les insultes ne suffisent pas, alors, eh bien, on passe aux menaces. Ça, c'est notre deuxième point. Que faire? Que faire quand on est menacé, ici menacé de mort? Au verset 9, il est écrit « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » La réponse, c'est toujours d'abord la prière. Se réfugier immédiatement en Dieu, confier notre sort à Dieu. On peut faire quelque chose après avoir prié, mais on prie d'abord. Et les Juifs du temps de Néhémie ont prié Dieu et ils se sont organisés. Ils ont établi une garde jour et nuit. Ils se sont armés, au verset 13. Ils se sont répartis en des combattants et puis en des bâtisseurs, tout en s'encourageant à se souvenir et à porter leur regard sur le Dieu grand et redoutable qui est leur Dieu. Et à combattre pour leurs proches, pour leurs familles, pour leurs femmes, pour leur pays. Chaque fois que les ennemis venaient pour les attaquer, il y avait quelques juifs qui les avertissaient rapidement. Et puis, ils pouvaient se défendre. Et vous avez remarqué, c'est à Dieu qu'est attribué le mérite d'avoir anéanti leur complot. Verset 15, Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur complot, leur projet. Et ça, c'est parce qu'ils étaient, ils avaient prié. On a tendance parfois à reconnaître l'action de Dieu que dans les œuvres spectaculaires, surnaturelles, miraculeuses. Ah oui, Dieu a agi lorsqu'il a ouvert la mer Rouge pour que le peuple quittant l'Égypte puisse échapper à l'armée de Pharaon. Ah oui, Dieu a combattu pour Israël lorsqu'il a fait s'effondrer les murailles de Jéricho. Oh oui, Dieu a agi lorsqu'il a miraculeusement guéri Shanaz de son cancer. Mais le livre de Néhémie, il nous enseigne aussi que Dieu agit dans le cours naturel des choses, des événements. Oui, Dieu œuvre parfois dans des moyens spectaculaires et surnaturels. Mais il se sert plus généralement encore de gens ordinaires qui assument leurs responsabilités, qui agissent fidèlement dans les circonstances difficiles. Depuis la conversion de Shanaz et de Jamshid, il n'y a pas eu vraiment d'événements spectaculaires, mais une mise en œuvre de la foi dans le Dieu bienveillant. Il y a eu de nombreux combats. Il a fallu persévérer dans la prière, dans les démarches, dans les efforts, dans les réunions de l'Église. Et c'est ainsi que Dieu a fait son œuvre merveilleuse dans leur vie et dans leur cœur. Face aux menaces, Néhémie a établi une garde pour que le travail se poursuive. Et il faut que, au fond, les ouvriers soient protégés quand ils travaillent. Mais il a aussi armé chacun des ouvriers. Vous avez remarqué dans les versets 17 et 18. Et donc, ça nous enseigne deux choses. C'est que on doit veiller les uns sur les autres, se protéger les uns les autres. Et puis, on doit aussi chacun revêtir les armes de Dieu, que sont la vérité, la justice, le zèle, la foi, la parole de Dieu, pour pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, comme le dit l'apôtre Paul en Éphésiens 6. Et puis, il a instauré un système d'alerte. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un à ses côtés qui avait une trompette et qui savait en sonner. Il avertit tout le camp. Il dit, vous voyez, on est répartis sur toute la surface de Jérusalem. On est en train de construire, mais on se voit pas, chacun de notre côté. Alors, quand vous entendez la trompette, vous vous réunissez, vous vous rassemblez immédiatement et vous venez au secours de ceux qui sonnent la trompette. Parce que là, il y a danger. Là, il y a besoin de vous. Chacun de nous, dans la semaine, nous travaillons et nous sommes à l'œuvre dans notre coin, dans notre travail, dans notre foyer, au lycée, à la fac. Chacun de nous connaît des difficultés, des luttes. Chacun de nous a besoin des autres. C'est pourquoi nous aussi, on a un système d'alerte. On a aussi une trompette qui sonne pour qu'on se réunisse, pour qu'on se retrouve. Ce système, ce sont nos cellules de maison. Chaque mardi ou mercredi, on sonne de la trompette et on se retrouve. Et là, on partage nos fardeaux, on partage nos luttes, on partage nos difficultés. Et puis on prie le Dieu grand et redoutable. Et puis on se souvient de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous. Et ça, ça nous encourage énormément. Peut-être que c'est pas dans vos possibilités d'être le mardi ou le mercredi dans une cellule. Alors le dimanche matin, avant le culte, après le culte, on a des réunions, une occasion encore de sonner la trompette, de se retrouver, de partager nos fardeaux et de les placer devant Dieu, de s'encourager dans la foi. Et si ça ne suffit pas, sonnez vous-même de la trompette. Appelez un frère, une sœur et dites « Viens à mon secours, j'ai besoin de lutter avec toi dans la prière ». Faites-le autant de fois que nécessaire. Dieu a combattu pour eux et il a anéanti le projet de leur ennemi et chacun est retourné à son ouvrage. Mais au verset 10, on apprend encore connaissent une autre attaque. Ce sont les... Cette fois-ci, c'est une attaque interne, c'est le découragement. Vous avez lu ici, il dit, « Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Ça, c'est le top du découragement. La tâche était énorme. Oh, bien sûr, ils sont arrivés à la moitié. Mais l'élan du commencement, ça s'est épuisé. Ils n'en peuvent plus. Combien de fois pensez-vous que Jamshid et Shahnaz auraient pu se décourager? Ils ont tout laissé en Iran. Travail, maison, famille, enfants, petits-enfants. Pour sauver leur vie. Ils sont arrivés en France, puis en Allemagne, puis retour en France. À Paris, puis à Toulouse. De camps de réfugiés en centre d'accueil de demandeurs d'asile. D'une administration à l'autre, sans connaître la langue, ni personne pour les secourir. Et avec le découragement vient le doute. Nous ne pourrons pas construire cette muraille. D'ailleurs, est-ce bien la volonté de Dieu? Sommes-nous en train de nous épuiser dans le projet d'un homme, Néhémie, un peu mégalo, qui veut se faire un nom avec un projet pharaonique dont nous sommes maintenant devenus les esclaves? Vous voyez le genre de pensées qui peuvent animer nos cœurs. Je me souviens de cette période dans les travaux de ce bâtiment. Au début, nous venions d'acheter le bâtiment. Il fallait casser des cloisons et des murs et évacuer des gravats. Et je me souviens de l'enthousiasme, du nombre que nous étions. En quelques journées de travaux, on avait abattu un énorme travail. Je me souviens aussi de la fin du chantier. Nous venions d'obtenir l'autorisation d'ouvrir. Avec le conseil, on a annoncé à l'église, dans 6 semaines, on se réunit ici. Il y avait pas de peinture sur les murs, il n'y avait pas de carrelage au sol, il n'y avait pas d'estrade, il n'y avait pas l'étage. Il y avait... Tout le monde s'est craché dans les mains et s'est mis au travail. Il y avait un enthousiasme parce qu'on voyait le but, on voyait ce jour où on allait pouvoir se réunir ici et célébrer dans notre Dieu. On était tellement encouragés à ce moment-là. Et je me souviens plus encore de cette longue période intermédiaire. Ce moment où l'enthousiasme du début a été littéralement épuisé par l'ampleur de la tâche et puis par le refus de notre permis de construire. Le chantier était encore colossal. Le doute a failli s'installer dans nos cœurs, comme ici. On n'a pas assez de force. On n'a pas assez de bras. Peut-être on s'est trompé. Peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous savez, c'est là le moment le plus difficile. Le moment où on a besoin de persévérance. Le moment où il fallait poursuivre un jour après l'autre. Dans les travaux, dans la confiance que Dieu nous donnerait la délivrance. Pendant toute cette période, ma prière, celle de tout le conseil et de bien d'autres frères et sœurs, a été la suivante. Seigneur, ton œuvre à toi, c'est plus qu'un bâtiment. C'est de bâtir ton église. Alors garde-nous unis. Garde-nous unis, quelle que soit l'issue que tu donneras à ce projet de bâtiment. Rares ont été les personnes qui sont venues nous trouver en nous disant « Tu crois qu'on s'est trompé? Est-ce bien la volonté de Dieu que nous achetions ce bâtiment ?» Notre réponse était sa volonté est de bâtir son église et d'en prendre soin avec ou sans ce bâtiment. Voyez-vous, face au découragement, Néhémie y replace Dieu sous les yeux de tous. Souvenez-vous du Dieu grand et redoutable. Le découragement, il vient quand nos circonstances sont plus grandes que notre Dieu. La foi, elle, et la confiance en Dieu, vient quand Dieu est devant nos yeux dans sa grandeur et dans sa force. C'est ainsi que Moïse s'est présenté devant Pharaon. Non pas parce qu'il regardait à Pharaon, mais parce qu'il regardait au Dieu qui gouverne l'univers. C'est ainsi que David a vaincu Goliath, parce qu'il avait les yeux fixés sur le Dieu d'Israël. C'est ainsi que Josué et Caleb ont regardé Canaan et les géants qui habitaient Canaan, parce qu'ils avaient leurs yeux posés sur Dieu. Êtes-vous découragé aujourd'hui? Êtes-vous dans le doute? Vous êtes probablement focalisé davantage sur les circonstances que sur Dieu. Souvenez-vous de Dieu et poursuivez le combat. Néhémie leur rappelle le projet de Dieu. C'est un projet de rédemption. Dieu a promis de ramener son peuple dans le pays et d'y établir son temple à Jérusalem. Dieu a promis de bâtir son église. Il a promis qu'il allait appeler et transformer les élus, qu'il allait édifier et purifier son église. Voilà l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Et elle va réussir. Elle se réalise par l'Évangile. Souvenez-vous du Seigneur. Notre Seigneur, Jésus, a été moqué et il a été violenté. Et il s'en est remis à son Père céleste. Parce qu'il recevait sur lui la peine que méritaient nos offenses, nos fautes. Il a prié pour ses ennemis et il a dit, Père, pardonne-leur. Il a soif de justice. Il a soif que la justice de Dieu soit accomplie. Mais la justice de Dieu va se déverser sur lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de prières d'imprécation dans le Nouveau Testament et qu'on n'est pas invité à maudire nos ennemis, mais à les bénir. Parce que Jésus-Christ a déjà supporté cela. Il a été mis à mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et il offre aujourd'hui un plein pardon et une vie nouvelle et éternelle à tous ceux qui croient. Le serviteur, il n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont persécuté Christ, ils nous persécuteront également. Alors nous aussi, confions-nous en Dieu. Prions pour nos ennemis et poursuivons la course. Au fond, par l'opposition qu'il a rencontrée, par sa mort, il a accompli le plan parfait de notre rédemption, de notre salut. Il est ressuscité des morts, il vit éternellement. Il en sera de même avec vous. Voyez-vous, l'Évangile, il fonctionne de cette manière-là. On peut nous moquer, on peut nous tuer, mais le plan de Dieu triomphe. On peut renoncer à sa vie, on peut connaître l'opposition, l'hostilité, mais le plan de Dieu s'accomplit. Et le plan de Dieu, c'est la vie, c'est la transformation de nos vies, de nos cœurs, et la gloire pour l'éternité. L'Évangile fonctionne très bien en situation d'opposition. C'est d'ailleurs le seul moyen qui nous est donné de vaincre l'ennemi. On n'a pas d'armes, pas d'épée, pas de fusil, pas de canon. On a juste un Évangile qui a promis que l'on triomphe parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors ils ont persévéré. Ils ont persévéré dans la bataille et ils ont montré de la fermeté, de la détermination. Au verset 21, du lever du soleil jusqu'à l'apparition des étoiles, ils étaient à l'œuvre. Ils sont restés sur place nuit et jour et tous sont restés concentrés sur le travail à accomplir. Je ne peux pas m'empêcher de soulever un peu le voile sur les prochains versets. Au chapitre 6 et au verset 15, il est écrit « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul. en 52 jours. La victoire a été remportée. L'œuvre a été achevée. Nous aussi, persévérons dans la foi. Tenons ferme et poursuivons le travail, parce qu'il ne sera pas vain dans le Seigneur. Oh, peut-être aujourd'hui, vous menez des combats. Vous connaissez des luttes extérieures, intérieures. Ne baissez pas les bras. Dieu accomplit son œuvre dans nos situations difficiles. Souvenez-vous de son évangile. Souvenez-vous de sa victoire. Souvenez-vous de son triomphe. Il a triomphé pour nous, pour que nous aussi, nous puissions triompher. Prions Dieu, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ que tu as donné. Il a reçu toutes les moqueries, toutes les insultes. Il a reçu les coups. Il a reçu les crachats. Il a même connu la mort. Mais il a fait tout cela pour nous, parce que c'était le salaire que méritaient nos fautes. Et tu l'as ressuscité d'entre les morts. La mort ne pouvait pas le retenir. Tu nous prouves par là, Seigneur notre Dieu, que tu as bel et bien accompli le rachat de nos âmes, que la justice de Dieu a été satisfaite, que chacun ici peut espérer dans un salut parfait. Seigneur, je prie pour que chacun ici, au sein des difficultés qu'il peut rencontrer, face à l'ennemi, face aux circonstances adverses, puisse se réfugier en toi, se confier en toi. Merci de révéler ton Fils dans chacun des cœurs. Merci d'accorder le plein pardon et la vie éternelle à tous ceux qui croient. Seigneur, merci de nous apprendre à persévérer en comptant sur toi. Seigneur, on sait qu'on a été défaillant dans la bataille, qu'on a répondu aux insultes, qu'on a pris peur et la fuite dans les menaces. On sait qu'on a connu le découragement. Mais Seigneur, toi-même, tu es allé jusqu'au bout. Tu n'as pas connu cela. Tu as béni ceux qui te maudissaient. Tu as remporté une pleine victoire, un total triomphe, et tu nous en fais partager. Seigneur, on veut apprendre à persévérer en comptant sur toi, sur la grâce que tu nous fais en Jésus-Christ, de nous avoir tellement aimés et de nous donner un plein pardon. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Amen.